Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais poursuivre aujourd'hui ce que j'avais commencé lors de la dernière émission de « Si ma mémoire est bonne » à évoquer des grandes figures du banditisme français, de ces gens qui ont tenu le haut de l'affiche pendant un certain temps, avant de disparaître, parfois violemment, parfois tranquillement dans leur lit, et surtout de quitter la mémoire des hommes, parce que la gloire des médias est aussi éphémère qu'un papier de journal. Et je voudrais commencer cette évocation par un personnage qui a fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de Gaetano Zampa, plus connu sous le nom de Tony Zampa. Il est né à Marseille en 1933. Son père était napolitain, il était installé à Marseille. Et il faisait déjà partie du grand banditisme de Marseille, enfin le père, aux côtés de Carbone et Spirito. D'ailleurs, Paul Carbone a été le parrain de Tony Zampa. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le petit Tony a alors 7 ans, 8 ans, son père, avec habileté, commence par collaborer avec les Allemands. Puis lorsqu'il sent que la page est en train de se tourner, il passe dans la résistance. Ce qui lui permettra d'échapper à l'épuration. Pendant ce temps, son fils, en 1953, après la guerre, devient un garde du corps, le garde du corps de Gaston Defer. D'ailleurs, le nom de Gaston Defer reviendra souvent dans l'histoire de Zampa. Il est le garde du corps de Gaston Defer et en même temps, il n'hésite pas à intervenir dans la vie locale. Par exemple, il intervient contre les dockers en grève en leur tirant dessus des faux tirs de mitraillettes. De quoi vit-il ? Oh, comme beaucoup de ses collègues, de la prostitution, de la drogue, des braquages, des jeux. Il est redouté pour sa violence. Il ne va d'ailleurs faire des incursions à Paris. On l'accueille pas forcément de bon gré. Il est grand. Il fait 1m91. Et parmi ses grands braquages, on retiendra celui du 31 décembre 1960. Il s'agit de voler l'argent de la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. 160 millions de francs. Ce n'est pas rien. Zampa ne sera jamais pris pour ce hold-up. Il va passer quelques mois en prison pour port d'armes. Il est très fortement soupçonné d'avoir participé à la French Connection, mais sa participation n'a jamais été prouvée. Il est très connu. Par exemple, à l'enterrement de son père, on voit Gaston de Fer, Léopold Segar Sangor et Lucky Luciano du Beau Monde. En 1981, on le soupçonne de participer à l'assassinat, de participer ou même d'avoir organisé l'assassinat du juge Michel. En fait, Zampa ne sera jamais inquiété pour ça. En 1983, il est arrêté pour des fraudes fiscales. Et on pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à perdre la tête. En prison, il fait, en 1984, deux tentatives de suicide qui vont rater. Et puis, pendant son procès, un matin, on le retrouve pendu dans sa cellule. Le 16 août 1984. C'était une personnalité quand même haute en couleur. Après Tony Zampa, je voudrais évoquer quelqu'un qui a incroyablement occupé les écrans de télévision, les antennes de la radio, les unes des magazines ou des quotidiens. Il s'agit de Jacques Mesrine. Jacques Mesrine est né en 1936. Il est un fils de commerçant aisé à Clichy-la-Garenne. À 20 ans, et devient parachutiste au cours de la guerre d'Algérie. Il en revient apparemment profondément marqué. Il fait une première tentative de hold-up en 1962, ça foire, il passe 18 mois en prison. En sortant, il fait quelques hold-up. Et puis, il acquiert une réputation extraordinaire. Il devient le roi de l'évasion. Le plus spectaculaire de ces évasions, c'est en 1973. Le 6 juin 1973, il est amené au tribunal. Il demande d'aller aux toilettes. Là, il récupère visiblement une arme. Il revient dans la salle, il prend le juge en otage, le juge Guérin en otage, et il s'évade. Avouez que un romancier hésiterait à inventer une histoire pareille. Le 28 septembre de la même année, il est repris. C'est le commissaire Boussard qui l'arrête. Et alors qu'il est en prison, il écrit un livre qui a un énorme succès. Ce livre s'appelle « L'instinct de mort ». Je vous signale qu'il en a été tiré un film. Et la technique de Mesrine, une technique payante, il va politiser son procès. Il va commencer par écrire à la presse, par dénoncer les conditions de vie en prison, jusqu'à ce qu'il s'évade en 1978. Mais la presse se jette sur ses déclarations. Alors qu'il est en fuite, en 1978, il va donner des interviews, il va recevoir des journalistes, il va leur expliquer son cas. Et les journalistes vont sauter à pieds joints sur l'occasion. On pense qu'il est à l'origine de l'enlèvement d'un milliardaire, Henri Lelièvre, qui pour être libéré fera verser 6 millions de rançons. Il joue avec la police. Il joue avec une certaine presse, notamment Libération, qui va se jeter à corps perdu dans l'aventure. Et puis, le 2 novembre 1979, Mesrine est avec sa compagne, son épouse, Sylvia, au volant d'une voiture. Dans la voiture, il y a aussi leur chien, Fripouille. Il va être abattu au volant. La photo de Mesrine, du corps de Mesrine, la tête appuyée sur le volant, fera la une de tous les quotidiens, de tous les hebdomadaires. Alors, simplement pour évoquer une pratique qui est toujours en usage. En 2011, sa veuve fait paraître un livre de souvenirs. C'est fou ce que les gens ont des choses à raconter après la mort d'un proche célèbre. Signalons que au cinéma, un film est paru en 1983. Mesrine était incarnée par Nicolas Sydberg. Également un gang qui a régné sur le grand banditisme en France entre 1967 et 1977, le gang des Lyonnais. On ne connaît pas tous les membres de ce gang. On connaît Pierre Porras. On sait que le gang a agi essentiellement à Lyon, donc d'où le titre du gang des Lyonnais. En 1970, ils vont attaquer la poste de Chambéry, 2 200 000 francs. Ça rapporte quand même. Ils vont préparer ce qu'on a appelé le hold-up du siècle. À Strasbourg, l'hôtel des Postes, 11 680 000 francs. On les a soupçonnés aussi d'être à l'origine de l'assassinat du juge Renaud. Certains membres du gang vont être jugés à Lyon en 1977. On estime qu'ils étaient 8. Leurs opérations étaient toujours préparées avec beaucoup de minutie. On pense que parmi eux, il y avait un membre du service d'action civile, du SAC. On va leur attribuer le rap de Christophe Mérieux et le gang va disparaître. On peut simplement dire que Pierre Porras, mourant d'un cancer en prison en 1982, 81, pardon. Je vous propose une pause musicale. Après le gang des Lyonnais, un autre gang, le gang des Postiches. Il va agir essentiellement entre 1981 et 1986. Alors, il va vivre surtout de braquages, de coffres éventés, très, pardon, de blanchiment d'argent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce gant des postiches va avoir visiblement la sympathie du public. La police nationale, elle ne peut pas faire grand-chose. Elle est sous les ordres de Gaston Defferre. Elle est complètement impuissante contre ce gang. Oh, pourquoi le gang des postiches? Parce que, tout simplement, ils avaient pris l'habitude, pour qu'on ne les identifie pas, de mettre des perruques, des fausses moustaches, des fausses barbes, etc., etc. Ils vont jouer avec la police au point d'organiser une évasion en hélicoptère en pleine cour de la prison. Et ça va marcher. Alors, avec leurs perruques, leurs fausses moustaches, leur tenue impeccable, les braquages réussissent presque à coup sûr. Sauf un. Enfin, entre autres. Celui du Crédit Lyonnais, rue du Docteur Blanche à Paris. Et puis, on les soupçonne d'avoir planifié des tas d'autres braquages qui n'ont pas forcément eu le temps de mettre en œuvre. Alors, le braquage de gang des postiches va disparaître peu à peu. On n'entendra plus parler. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Certains ont été arrêtés, d'autres se sont évanouis dans la nature. Avant de conclure, je voudrais évoquer aussi une personnalité, Michel Krutel, qui a été abattu en plein braquage. Il est né en 1956. Il a fait fortune à Malaga avec le trafic de drogue. On ne sait pas grand-chose sur lui, sinon qu'il travaille en fourgon plombé, qu'il va dévaliser le siège de la Brinks à Colombes en prenant le directeur en otage. Il va aussi faire un hold-up, simplement celui d'un avion à Perpignan. Il a été abattu, je vous l'ai dit tout à l'heure, en emportant une grande partie de son mystère. Et c'est un peu le cas de plusieurs de ces grands bandits français. Comme par exemple Pascal Payet, qui est né en 1963 à Montpellier, et qu'on appelait le roi de la belle, le roi de l'évasion. En 2001, il s'évade en hélicoptère de Luynes dans les Bouches-du-Rhône. Et comme ça a marché avec lui, il renouvelle l'expérience, il fait évader trois amis, comme quoi le sens de l'amitié peut être utile pour les prisonnier. Il va un temps jouer les petits mesrines. Il va écrire à la presse pour dénoncer les conditions de détention. Finalement, il sera arrêté. Il sera trahi par un de ses anciens complices. Il sera condamné en 2005 à 30 ans de réclusion. Il va s'évader en 2007 de grâce, en hélicoptère toujours. Il sera repris en Espagne Il sera recondamné en 2008. Peut-être que cela ne figure pas dans le livre Guinness des records, mais Pascal Payet détient le record du monde de l'évasion réussie par hélicoptère. Avant de nous quitter, je voudrais évoquer un gang, le clan Hornek, Hornek, H-O-R-N-E-C. Ils sont trois frères, Jean-Claude, l'aîné, né en 1953, Mario, né en 1957, Marc, né en 1966. Ce sont des manouches. Le père est ferrailleur et il s'allie. Il s'allie avec les Arabes des cités voisines. Ils organisent des attaques en fourgon blindé. Marc sera arrêté, relâché à plusieurs reprises. Il a été condamné à 10 ans de prison en 2008. Qui a été reconverti à 4 ans en jugement d'appel. enfin, je voudrais simplement évoquer le nom de quelqu'un dont on a beaucoup parlé, Francis Van Verberghe, dit le Belge. Il est né à Marseille en 1946. Son père est un ancien légionnaire devenu menuisier. Alors Francis Van Verberghe commence sa carrière, oh, comme beaucoup de ce milieu, il commence par être proxénète à 17 ans. Il est recruté par un des parrains du milieu de Marseille, Antoine Guérinet. Il sera l'adversaire de Zampa. Et il sera arrêté, relâché, acquitté. Il va vivre une histoire d'amour avec une femme, avec Lydie. Et puis, il va finir sa vie, sa carrière, comme beaucoup de ses collègues. Il sera abattu à 54 ans. Il n'est peut-être pas utile de préciser que on n'a jamais su avec certitude qui l'avait tué et sur l'ordre de qui. Le milieu a ceci de constant. Il sait se taire, garder ses secrets, opposer un silence obstiné aux questions de la police. Et paradoxalement, si on reprend toutes ces séries d'aventures de commanditisme, on se rend compte que la police n'attire pas la sympathie. Souvent, elle se heurte à ce mur de silence. Et le public s'attache plus aux délinquants qu'aux forces de police. Je vais peut-être vous choquer, mais cela n'a pas tellement changé aujourd'hui. Lorsqu'on voit des délinquants occuper les antennes de la télévision, alors que la police est huée, attaquée, parfois jusque dans les commissariats. Je vous remercie de m'avoir écouté.